Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans Next Episode, saison 2, votre rendez-vous consacré aux séries télé, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. Et en l'an de plus de débats peut-être, plus de respect sûrement pas, et plus de tout, ouais, ça va être une gaffe. Nous on est comme ça. Aujourd'hui une émission anthologique et racée. En tout cas c'est notre ambition et celle de la série que nous allons traiter, The Romanoff, nouvelle saga Amazon signée Matthew Weiner. Pour en débattre, il est venu vêtu de rouge en hommage à Anne Romanoff, Romain Burel. T'as bien compris le...
Je cultive ma ressemblance physique avec Anne Romanoff.
C'est
surtout
ça.
Au niveau des dents et de la coupe des cheveux.
Et elle est royale, comme d'hab, Anaïs Bordage, bonjour.
Bonjour.
Et on parle des Romanoff juste après l'info du jour. Une première bande-annonce surcocaïnée pour Black Monday, série Showtime produite par Seth Rogen et Evan Goldberg, starring Don Cheadle. What the fuck though? Where the love go? 5, 4, 3, 2, I let one go. I am Black Moses, and I'm gonna put the brother in Lehman Brothers. Get the fuck though? I don't bluff, bro. Go. I come out the scuffle without a scuffle. Let's go. I got a duffo, full of hundos. Aiming at your head, I'm a cutthroat. It's a shit show. Le pitch, 19 octobre 1987, le lundi noir, le pire crack. On dit crack boursier ou crash boursier?
Je crois qu'il y a les deux écoles, mais on peut dire.
Je dis crash.
Ouais, tu peux dire ce que tu veux.
Le pire crack boursier de l'histoire de Wall Street. Je ne suis pas très, tradeuse dans l'âme. Jusqu'à ce jour, personne ne sait ce qui l'a causé. Eh bien, découvrez-le maintenant grâce à cette série. C'est donc le pitch, ce sera mis en ligne le 20 janvier. Enfin, mis en ligne, non, ce sera diffusé le 20 janvier. Est-ce que ça vous tente sur le papier?
Non.
Don Cheadle de la cocaïne Wall Street, les années 80.
En fait, j'ai l'impression qu'on commence un peu à se répéter avec déjà les séries dans les années 80, les talents cinéma qui viennent essayer de faire des projets télé, mais ça marche pas à tous les coups. Et puis les histoires de drogue, moi ça m'intéresse jamais, généralement. Donc,
oh bon
là, je tiens à le dire, sachez-le. Non, donc moi ça... pas trop.
D'accord. Romain
ouais, cette Rogan a arrêté de me faire rire il y a à peu près 10 ans, je pense. Que...
Oh non.
Non, si, il faut être très, très honnête, il accepte trop de trucs. Non, moi, il faudra me payer très cher.
Moi, j'ai bien aimé sa série avec l'homme du futur, là. Je trouve ça pas mal.
Future Man.
Ouais. Ok, je suis seule. Très bien, mais je propose que du coup, on parle plutôt d'une grande saga et qu'on vérifie nos lignées.
Michael, there are so many people out there with your background and... I guess they're proud, but they're really f***ed up.
Have you ever heard of the Romanovs?
Of course. The Russian royal family?
Yes. I'm a descendant.
I'm a Romanov. And you're just pretending.
I'll never understand why people are impressed.
It's history.
This is all I want. For the line to continue.
Well, you'd think that royal blood dilutes over time. But the poison survives.
C'est lent, non, même pour une bande-annonce. 8 épisodes pour une anthologie. À chaque épisode, une histoire centrée sur une personne persuadée d'être une descendante, un descendant de la célèbre famille royale russe. 8 fois 1h30. Grosse ambition ou gros égo de l'homme à qui on doit Mad Men?
Vous avez trouvé la bande-annonce chiante. Alors, vous n'allez pas être déçu si vous regardez la série, parce que la série est encore pire. C'est vraiment ce que j'ai vu de plus mauvais depuis très très longtemps. C'est une déception totale. Moi, comme beaucoup de gens, j'aimais beaucoup Mad Men. Donc, j'attendais ce projet avec énormément d'impatience. Et en plus, sur le papier, The Romanoff, tu vois, ça claque, quoi. T'as très envie de voir ça, tu te dis...
Tu continues de dire The Romanoff, toi. Hein.
Ouais, c'est The Romanoff. Non, mais ça claque, tu te dis... moi, j'attendais un espèce d'Empire blanc, en fait, tu vois, quelque chose d'assez clinquant, etc. Et en fait, tu regardes un espèce de remake de Tati Daniel, en fait, faut être très honnête, quoi. Ouais. Surtout le premier épisode, qui est probablement le
pire. Alors, déjà, c'est atroce.
Ouais, c'est le 2 est pas mal
Keller,
aussi,
c'est ça. Celui avec Mark Keller,
ouais, exactement. Et Aaron Eckhart, et Louise Bourgoin. Ouais.
Ouais.
Déjà, les gens, c'est des trois noms. Louise Bourgeois, René Carte, Marc Keller.
Voilà. Déjà, il n'y a plus personne qui écoute, là. Donc,
Mais juste, alors déjà, moi, un de mes grands combats, c'est la qualité des séries photos, notamment en France. Et là, en fait, je pense qu'ils se sont carrément fait avoir par le laboratoire qui leur a développé les pellicules, parce que c'est vraiment plus chum, tu meurs. C'est vraiment très, très vilain à regarder. Beau, ouais. Ça pique les yeux. C'est vraiment horrible. Et quand je parlais de remake de Tati Daniel, on est dedans, quoi. C'est-à-dire que cette vieille aristocrate, machin, elle est juste imbitable, elle est insupportable avec son petit personnel, et donc là, moi je suis désolé, c'est le pitch de Tati Daniel, quoi. On est vraiment dedans. Il n'y a pas de direction d'acteur. Alors je veux bien, hein, comme il y a une partie du casting en français, machin, etc., donc peut-être que les réals américains n'ont pas l'habitude et ne savent pas faire. Non, c'est juste ultra mal écrit. Il y aurait des choses qui seraient pas inintéressantes, comme par exemple la présence d'une femme voilée auprès de cette vieille femme, un cariatre descendant des Romanov, là. Pourquoi pas, mais en fait, c'est tellement mal foutu, tellement, c'est plein de poncifs.
C'est vu et revu. Enfin, en fait, on comprend très vite où il veut en venir, en fait, avec cette histoire d'une musulmane qui se fait insulter toute la journée par la vieille blanche à cariatre et qui vont quand même trouver des points communs malgré tout. Enfin, c'est
Inès Mellab, la jeune musulmane voilée, qui est plutôt impeccable en plus, dans le jeu bien, etc.
Qui est très bien, mais qui fait le maximum avec ce qu'on lui a donné, c'est-à-dire pas grand-chose. Voilà. Et c'est vraiment dommage parce que, comme tu disais, le sujet, moi je le trouve passionnant, en fait. Quand j'ai appris qu'il allait faire une série sur ça, j'étais hyper contente parce que c'est vraiment un sujet très, très, très intéressant. Mais en fait...
c'est un pitch prétexte, c'est ça le plus impardonnable, en fait. C'est-à-dire c'est on va vous expliquer ce que c'est que d'être d'un descendant, enfin, ou de trouver des descendants Et pas du tout, en fait, c'est pas du tout ça le sujet.
C'est évoqué un tout petit peu, ou par exemple, là, comme on l'a entendu dans l'extrait, une femme qui dit à son mari, mais tous les gens qui sont comme toi, qui pensent qu'ils descendent des Romanov, ils sont fucked up. Et en fait, ça, ce serait intéressant de découvrir un peu de quelle manière, en fait, ça a vraiment eu un impact sur leur vie, comment ils ont été éduqués, est-ce qu'ils ont eu une éducation particulière, qu'est-ce qu'on leur a raconté quand ils étaient enfants sur leur descendance, etc. Même juste une mini-série sur les Romanov, qu'on voit dans l'épisode 3, par exemple, être tournée, ça aurait été plus intéressant que juste ça, qui est en fait prendre des personnages antipathiques qui ont vaguement un lien avec les Romanov, mais c'est quasiment pas évoqué dans chaque épisode, et qu'on voit juste être antipathique pendant une heure et demie à chaque fois. C'est horrible, quoi.
C'est super long aussi, faut vous dire.
C'est trop long, et il n'y a aucune justification pour cette longueur. C'est-à-dire que moi, j'ai rien contre les œuvres longues quand c'est justifié. Et là, en fait, ça l'est pas du tout. Vraiment, on aurait pu couper la moitié à chaque fois. Il n'y aurait pas eu de problème, quoi. Ça dure. Et effectivement, les dialogues sont pas très bons. À chaque fois, il y a peut-être... quelques répliques dans chaque épisode que je trouve vraiment pas mal et où je me dis je voudrais plus de ça, en fait, mais malheureusement c'est trois répliques par épisode.
Moi, j'aurais bien aimé être dans le bureau des mecs d'Amazon quand ils ont reçu le bousin, quoi, franchement. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était pas du tout ce qu'on a acheté, quoi, concrètement. Voilà. C'est vraiment
acheté une série avec un pitch, avec un casting complètement zinzin, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure des épisodes,
le casting
comme quoi ça suffit pas. Ça suffit pas d'aller chercher des acteurs de cinéma. Ça fait plus la blague aujourd'hui, surtout après les séries comme Pose ou des choses comme ça, où en fait, des bonnes actrices et des bons acteurs peuvent tenir une série, même quand ils sont inconnus, en fait. On n'a pas besoin d'Aaron Eckhart, on n'a pas besoin d'Isabelle Huppert.
Mais d'ailleurs, la meilleure pour l'instant, c'est Kerry Bichet, qui n'est pas la plus connue de l'histoire, mais qui est vraiment incroyable.
Ouais, Christina Hendricks aussi, qui est top. Et effectivement, en fait, c'est eux qu'on a besoin, in fine. On n'a aucune envie de se cogner des trucs avec Aaron Eckhart, qui est à peu près incapable de choisir un bon rôle de toute façon depuis Game of Thrones. Donc
Non, et puis en fait, le fait de choisir, ils ont tourné dans 7 pays différents, je crois, et donc il y a un casting international, et en fait ça aussi ça marche pas très bien, parce que en fait faire tourner Louise Bourgoin et Isabelle Huppert en anglais, c'est à double tranchant, ça marche pas forcément toujours très bien. Faire tourner Aaron Eckhart en français, c'est encore pire. Enfin, en fait, cette volonté d'explorer plein de cultures et plein de pays, en fait, moi l'épisode 2 c'est mon préféré parce qu'il est aux États-Unis, et je trouve que Matthew Weiner est plus à l'aise quand il parle d'Amérique, alors que en fait le premier épisode à Paris, c'est encore du cliché sur Paris, enfin c'est insupportable,
non,
quoi.
Plus, quoi. Enfin,
non, mais c'est ça, c'est vraiment pour le public français, ça n'a aucun intérêt. Mais même, je trouve que le troisième, qui est en Pologne, il me semble, n'est pas mieux non plus. On sent que il est pas très à l'aise avec des cultures qui ne sont pas américaines.
Moi, c'est le seul que je sauverais un peu, en fait. Pologne, c'est le seul que je trouve.
Ouais, il m'a un peu saoulé aussi.
Mais concrètement, sur les poncifs sur Paris. Alors moi, j'essaie de me dire à chaque fois, bon, en même temps, il faut le vendre. Forcément, tu dois voir la Tour Eiffel, parce que à l'étranger, sinon ils savent pas où ils sont. Ouais. J'essaie de faire abstraction de ça, parce qu'effectivement, on ne peut pas faire tout dans le 10e arrondissement non plus, mais...
Ouais, mais même l'accordéon dans les rues et tout, enfin...
Je ne peux pas te laisser dire ça, je viens de me cogner de l'accordéon dans le métro à l'instant.
Oui, mais généralement, il n'est pas comme ça dans les séries. Il est vachement plus romantique, et puis il n'est pas dans le métro, il est sur la rue
pavée. Il est équipé d'un béret, généralement.
Ouais, voilà, et d'une baguette sous le bras.
Mais c'est vraiment important de dire aux showrunners et aux décideurs de séries, que ce soit sur des networks ou sur des services en streaming, c'est pas possible de compter encore sur des gens connus du cinéma pour les faire venir à la, dans des séries. Oubliez ça, arrêtez ça.
Il a eu carte blanche, Matthew Weiner, et c'est bien pour ça. Ça se ressent, en fait. Il a eu carte blanche, donc il a fait ce qu'il voulait.
Ouais, je me dis aussi que... Il travaillait avec une scénariste très très douée sur Mad Men. Il y a des accusations de
harcèlement,
clairement, et que peut-être la partie la plus douée de Matthew Weiner, sa scénariste, n'est pas présente sur ce projet, et que ça explique la mauvaise qualité de ce projet.
Beaucoup de scénaristes et beaucoup de réalisateurs très 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 talentueux dans Mad Men. Vraiment, toute son équipe était extraordinaire. Donc il y avait elle, mais il y en avait d'autres. En fait, moi je pense que le problème avec son concept, c'est que ce qui marchait très très bien dans Mad Men, c'était qu'on avait à peu près la même chose. Ça parlait du déclin d'une certaine classe, en fait, de privilégiés. Dans Mad Men, c'était les riches des années 50 et la famille nucléaire qui a complètement explosé dans les années 60. Et là, c'est des descendants de la royauté qui s'imaginent, en fait, qui méritent mieux que ce qu'ils ont parce qu'ils sont en déclin et ils appartiennent maintenant à la classe moyenne, en fait. Et du coup, le thème, c'est le même. Les personnages sont tout aussi antipathiques. La différence, c'est que dans Mad Men, il les développait sur le très long terme. Et que du coup, leur motivation était beaucoup plus nuancée. Que Peggy Olson, elle était détestable sur plein de points. Don Draper aussi, Pete Campbell aussi, qui est peut-être le plus proche des personnages qu'on a dans les Romanoff. Mais la différence, c'est qu'ils étaient développés sur plusieurs saisons et que du coup, ils étaient humains. Et là, en fait, en une heure et demie, on n'a pas le temps de développer tout ça.
Putain, et on a juste et demie, des gens. Putain, on n'a pas le temps, c'est, pas... c'est dur à entendre, quoi.
En tout cas, c'est juste que là. Notamment l'épisode 1, mais il y a un twist à la fin mais qui sort de nulle part, qui est vraiment archi nul. Et en fait, c'est typiquement le genre de choses qui aurait pu se produire au bout de 3 saisons dans Mad Men, par exemple. En fait, c'est très similaire, c'est juste que là, c'est la version mauvaise de ce qui était absolument génial dans Mad Men, quoi. Et c'est vraiment dommage.
Mais alors, si je dis pas de bêtises, en plus, Weiner avait l'ambition de faire une série plutôt à tonalité légère, hein, pas un...
Ah en tout cas, sur le premier épisode, c'est ce qu'on se dit. C'est-à-dire que vraiment, c'est de la comédie potache, pas très drôle, etc. Sur vieux fond de leçons d'histoire autour d'un croissant mangé le matin. Parce que... Mais ça, c'est pas drôle, quoi.
Moi, mais ça
me fait pas rire,
quoi,
de voir de la merde de chien sur un tapis. Enfin, concrètement, c'est ça le niveau, quoi.
Non, mais c'est ça qui est terrible, c'est que la série est... C'est-à-dire que tu peux même pas être fâché en te disant le mec a fait un truc, ça me déplaît. C'est juste rien, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu regardes le truc, tu fais...
Non, c'est ça, c'est trop long, les dialogues sont pas au top, la réalisation est vraiment...
Je peux même pas dire que je déteste, en fait, c'est juste j'ai oublié, je l'ai vu, j'ai oublié, ça me... Voilà,
c'est... Ouais, non, mais c'est des devoirs, en fait, on le regarde parce que c'est des devoirs et c'est désagréable, et à notre époque actuelle, on a vraiment beaucoup trop de choix qui sont mieux que ça, pour s'infliger une heure et demie à chaque épisode, c'est pas possible, quoi.
Une pensée émue pour le monteur qui a dû se dire, voilà, c'était des épisodes d'une heure trente, quoi. Entre 1h15 et 1h30, quoi.
Mais que Sherlock qui peut faire des épisodes d'une heure trente, après, c'est pas autorisé, sinon.
Ouais, et puis il se passe rien dans ces épisodes, c'est ça qui est fou, c'est qu'à la rigueur, si c'était des épisodes d'une heure trente, parce qu'ils étaient épiques, quoi. Mais là, en fait, c'est pas le cas.
Pourtant, Dieu sait que de voir une série étirée sur plusieurs pays est quelque chose qui m'excite énormément. Ouais. Je trouve d'ailleurs qu'en fait, on a un tropisme américain ou anglais, et que je déteste ça. Je trouve qu'aujourd'hui, les séries, elles devraient être mondiales, on devrait pouvoir se promener, on devrait pouvoir voir d'autres paysages.
Mais encore faut-il s'entourer de gens qui comprennent le pays dont ils parlent, et là, le problème, c'est que tout a été écrit et réalisé par Matthew Weiner. Tous les épisodes, et ça se sent, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas Paris, et je connais pas la Pologne, mais j'ai pas l'impression qu'ils comprennent très bien non plus ce qui se passe là-bas.
Non, et pourtant, on sent que ça a dû coûter un bras, d'ailleurs ça a coûté un bras, mais en fait, tu vois pas le pognon à l'écran, quoi, concrètement, donc c'est ça qui est le plus embêtant.
Le casting,
c'est ça, et c'est, encore une fois, c'est prenez des acteurs par rush, quoi, prenez des acteurs, des bons acteurs qu'on connaît pas, d'ailleurs, vraiment, montrez-nous des visages qu'on n'a jamais vus, quoi. Ouais. Pas d'une série à l'autre, pas des gens de cinéma, ça suffit plus.
Parce que là, c'est quelques-uns de ces récurrents sur Mad Men, plus des stars.
Ouais, Corey Stoll qui jouait dans House of Cards.
Ouais, ouais. Mais vraiment, Carrie Bichet qui était dans Halt and Catch Fire. Elle est vraiment incroyable comme actrice. Et moi, ça m'a vraiment fait plaisir de la revoir. Et je trouve que c'est vraiment le meilleur rôle de, pour l'instant des trois épisodes que j'ai vus. Et c'est l'épisode que j'ai préféré aussi grâce à elle, honnêtement. Parce que Corey Stoll est un peu agaçant aussi. C'est voulu. Mais vraiment, elle arrive quand même à tirer son épingle du jeu. Mais c'est la seule, je trouve.
Alors, petit retour rapide, parce qu'on aurait bien compris que cette série ne mérite pas qu'on s'y attarde beaucoup plus. Enfin, je sais pas, moi qui ai d'un seul coup un argument pour la sauver. Vous l'avez dit tous les deux, vous étiez de grands fans de Mad Men.
Oui.
Donc, c'est-à-dire que c'est à hauteur de la déception de ce que vous avez
moi,
aimé la série.
Moi, c'est une de mes séries préférées.
Moi, je le dis, je n'ai jamais été très sensible à Mad Men. Et je ne suis toujours pas sensible au Romanoff.
Alors, moi, je pense que Mad Men, sur le papier, ça devrait être absolument pas une série pour moi. Parce que je pense qu'il n'y a rien de plus hétérosexuel que Mad Men, à peu près. C'est vraiment, je trouve que c'est. On est dans un univers hyper beauf, etc. Et je méfie un peu des séries un peu comme ça, uptight, qui veulent revisiter une période comme ça, qui était censée être anti-féministe au possible, etc. Je me dis non, moi j'ai pas envie de m'infliger ça. Parfois j'ai un peu l'impression que c'est Mad Men encore dans la tête des gens. Donc j'ai pas forcément envie de regarder ça. Et en fait, cette série, elle était. Ultra bien foutu, quoi. C'est-à-dire que ça faisait un bien fou d'apprécier, d'une part, parce que c'est pas du tout une série sur les 5 ans, c'est une série sur les années, sur aujourd'hui, en fait, ou en tout cas sur le chemin parcouru et sur le chemin qui reste à faire, en fait. Et en cela, la série me plaisait beaucoup, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, t'as un peu accès et par le menu et pas simplement par une leçon de féminisme par tout ce que les femmes ont subi notamment à cette époque-là, même quand elles sont invisibilisées, et c'est vraiment les rôles les plus intéressants sont les rôles féminins dans Mad Men. C'est pour ça que j'aime beaucoup
cette série. Oui, mais d'ailleurs on y rentre par Don Draper, mais c'est vraiment l'histoire de Peggy Olson, Mad Men, et c'est pour ça que c'est génial. C'est un des meilleurs personnages féminins de l'histoire, qui est hyper complexe, qui est parfois détestable, qui est très faillible, mais qui est vraiment hyper fascinante, quoi. Et en fait c'était effectivement, ça a revisité une période historique, mais une période qui a été complètement glamourisée dans nos esprits, les années 60, c'était génial, mais 68, tout ça. Sauf qu'en fait, c'était une série qui montrait que déjà les années 60 n'ont pas vraiment existé. Il y a eu les années 50 et après il y a eu les années 70, et tout ce qu'il y a eu au milieu, en fait, c'était vraiment juste un clash assez atroce. C'était sale, il y avait que des drogués, les hippies, ils étaient sales, ils s'amusaient pas, ils étaient tristes, ils étaient déprimés. Et donc c'était une manière de montrer une période qu'on a vraiment fantasmée d'une manière complètement nouvelle, quoi. Et donc c'est ça qui était génial dans Mad Men.
Alors moi je l'ai confessé, j'ai jamais été très sensible à cette série, mais il y avait au moins à la différence de l'autre une ambition visuelle.
Ah oui, clairement, c'est une des plus belles séries que vous pouvez voir. C'est
un des plus beaux génériques.
Ouais, clairement, d'une part. Et
efficace aussi, parce que celui des Romanoff, comme le reste de la série,
à l'image de la bande annonce.
Et pourtant, c'est Tom Petty qu'on entend sur. Et donc, ouais, forcément, il y a une promesse et elle est à hauteur de déception, effectivement.
Non, c'était magnifique, Mad Men. C'est vraiment une des plus belles séries. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Mad Men avait toujours au moins 4 ou 5 niveaux de lecture, en fait, dans chaque scène et dans chaque intrigue, alors que là, c'est juste hyper plat. Il n'y a rien derrière ce qu'on est en train de voir à l'écran. Et ce qui était beau avec Mad Men, c'était qu'effectivement, ça ne parlait pas des années 60, ça parlait de plein d'autres choses et c'était hyper subtil. Et on peut analyser et réanalyser Mad Men pour toujours. On trouvera toujours des nouvelles choses dans chaque plan, dans chaque épisode. Et ce n'est pas du tout le cas avec cette série, quoi.
Ah bah non, là, ça, on est sûr que...
Est-ce que c'est pas aussi la creative team de HBO qui choisit mieux ses projets, injecte quelque chose de plus intéressant que simplement là où Matthew Weiner débarque avec un truc produit pour Amazon et ça matche pas parce
il l'a lancé quand, cette série, vous savez ou pas?
Il y a très longtemps,
Les
Romanoff, c'était il y a 4 ans, je crois, il a commencé
avant
à travailler
avant le scandale
il y a
4 ou après le scandale.
Avant le scandale. D'ailleurs, je pense que... Ça, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. C'est est-ce qu'on peut regarder cette série, une série, en connaissant cette affaire, et est-ce qu'on peut faire abstraction de ce qu'est un homme
C'est la question qu'on se pose un peu tout le temps en ce moment, quoi. Mais au-delà de ça, déjà, en plus, il a donné des interviews où ça se voit qu'il n'est pas du tout désolé, quoi, de tout ce qui est sorti sur lui. Mais Au-delà de ça, moi, je pense aussi que Mad Men s'était tiré d'un livre à la base, donc il avait un matériel de départ qui l'a peut-être aidé. Il avait une équipe incroyable avec lui. Et en fait, là, moi, je pense vraiment que c'est les mêmes thèmes qui sont revisités dans les Romanov. Donc, je comprends pourquoi ça l'intéresse. C'est vraiment les blancs privilégiés qui sont quand même tristes et qui se demandent pourquoi ils ont pas plus que ce qu'ils ont. Mais là, ça marche pas, quoi.
Non, mais là, en l'occurrence, il a pas de livre pour la base, mais il a quand même une histoire formidable, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais son parti pris, c'est de ne peut-être pas s'intéresser à cette histoire-là, voilà. C'est de montrer autre chose, bah, c'est ça qui
mais
tombe
à l'eau.
Mais du
coup, il fallait pas appeler cette série comme ça, en fait. Mmh. C'est ça le problème.
Mais après, si la série ce qui est intéressant, c'est que même ça aussi, c'est un parti pris, c'est-à-dire qu'il veut montrer, en fait, pour l'instant, le fil conducteur, un peu au-delà du lien avec les Romanov, c'est de montrer, en fait, comment on aimerait fantasmer sa propre vie, comment on aimerait que notre vie soit un conte de fées, qu'on soit un descendant des Romanov, alors que la réalité est vraiment pas intéressante et qu'elle est assez déprimante. Sauf que du coup, bah, ce qu'il nous montre, c'est déprimant, quoi. Mais pas d'une manière un peu comme Forever. Il essaye de nous montrer que, justement, la réalité est beaucoup moins fun que ce qu'on aime fantasmer sur soi-même et sur sa descendance, sauf que du coup ce qu'il nous montre c'est pas fun non plus, quoi.
Finalement The Romanov c'est un peu la descente du piédestal du showrunner, quoi. C'est-à-dire qu'il est pas tout seul, un mec tout seul fait rarement une très bonne série, c'est ce qu'on comprend en tout cas quand tu passes de Mad Men à The Romanov.
Une recommandation avant que nous nous quittions.
Ouais, moi j'en ai une qui va vous paraître capillotractée. A Discovery of Witches, une série de Sky One en Angleterre sur les sorcières. C'est une série qui se travaille excessivement bien en Europe, qui est tournée en Italie, en Islande, en Pologne, en Angleterre. Et justement, on parlait justement de se balader et que ça, on se fait parfois entuber par les labos qui vous rendent des images dégueulasses, etc. C'est une série sublime qui montre la France d'une manière sublime, étonnante, des villages perdus dans le Tarn, l'Italie d'une manière vraiment extraordinaire. Et je me dis, tiens, pour une fois, voilà une belle réussite d'une série quasiment à taille européenne, produite pour je crois que c'est une coproduction britannique et canadienne, il me semble. Et vraiment, cette série, au-delà même de sa formule qui est en espèce de, pour l'écrire, je dirais, c'est un truc entre Twilight et Harry Potter, en gros. Quoi. C'est vraiment un truc.
C'est génial.
Ouais, voilà, tu vois, j'étais sûr que j'allais te convaincre. Mais. Sur la qualité de la photo et le fait que ça se balade tant que ça en Europe, ça m'a vraiment épaté. On voit des territoires, on voit qu'on a un continent incroyable en fait. On s'extasie beaucoup sur les plaines du Wyoming ou sur le grand blanc au Canada. Là, il y a quelque chose, on se dit tiens, finalement, on a un territoire sériel intéressant ici. Saisissez-en-vous.
Anaïs.
Alors moi, si c'est possible, je ne vais pas recommander de série, parce que de toute façon, il y a déjà trop de séries à voir, et puis avec des épisodes d'1h30, de toute façon, vous n'aurez pas le temps de voir autre chose. Pour montrer à quel point Mad Men était une série qui avait plein de niveaux de lecture et qui était vraiment hyper minutieuse, il y a juste un site qui s'appelle Tom & Lorenzo, qui est tenu par un couple de blogueurs, en fait, qui s'intéressent à la pop culture et à la mode. Et donc, un des trucs qu'ils ont fait de mieux et qui les a rendus vraiment célèbres, c'est qu'ils ont fait une analyse épisode par épisode de chaque épisode de Mad Men et de ses costumes. Et donc des costumes qui sont créés par Janie Bryant, qui est aussi la costume designer des Romanov. Et en fait.
Bah merde alors, parce que putain.
Ouais, alors après, les costumes sont bien.
La robe Jennifer de Bourgoin dans l'épisode 1, c'est elle.
Bah ouais, mais en fait, elle a un sens en fait. Et moi, vraiment, c'est Tom & Lorenzo qui m'ont fait réfléchir à l'importance des costumes et à la signification des costumes dans toutes les œuvres que je regarde maintenant. Et je vous conseille vraiment d'aller voir tous ces recaps qu'ils ont fait, même si vous n'avez pas vu Mad Men, on en apprend énormément sur l'art du costume, l'art du cinéma, de la télé. En fait, ils ont vraiment des analyses hyper fines sur pourquoi John porte cette robe à tel moment, pourquoi les deux personnages portent des couleurs qui sont aussi opposées dans telle scène, pourquoi, par exemple, les habits de Peggy sont très froissés et pas très bien taillés au début de la série quand elle n'a pas encore les moyens, et qu'après, bah, on sent qu'elle monte un peu en gamme parce qu'elle gagne plus d'argent et que donc c'est fringues reflète ça aussi. Il y a vraiment une analyse des bijoux, des sacs à main, et en fait, c'est hyper fin. Donc voilà, Tom & Lorenzo, les Mad Men, Mad Style Recaps, c'est vraiment incroyable et ça vous montrera à quel point Mad Men est une série géniale.
Mais ça dit toujours pas pourquoi Anne Romanoff est habillée en rouge et la frange si courte.
Et il faudrait leur demander, je suis sûre qu'ils auraient une explication.
Je suis pas sûre que ça allait...
Je comprends pas, il y a tellement de stars dans ce film, dans cette série, elle aurait dû être présente.
The Romanoff, la seule. Merci beaucoup Anaïs Bordage, merci Romain Burel. Cet épisode, c'est terminé. Rendez-vous mardi prochain, même heure.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.